9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Cette semaine, alors qu'on fustigeait la Pologne, qui discutait la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit polonais, notre Conseil constitutionnel a parlé pour la première fois d'une identité constitutionnelle de la France pouvant s'opposer aux directives ou aux règlements européens. Est-ce que la France, comme la Pologne, remet en cause les fondations de l'Union européenne? On va poser la question à un juriste, c'est Nicolas Hervieux, qui est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite Pierre Valentin, il n'a que 23 ans, mais c'est lui l'ennemi numéro un du wokisme en France, celui qui a convaincu nombre de responsables politiques, dont Jean-Michel Blanquer, de déclarer la guerre à l'idéologie woke. Et l'on terminera l'émission avec une danseuse du Crazy Horse. Le célèbre cabaret parisien vient de rouvrir ses portes, transformé après 18 mois de fermeture. Tina Tobago, c'est mon invitée, a une particularité. Le soir, elle danse topless au Crazy. Le jour, elle enfile sa blouse et redevient une infirmière. Nicolas Hervieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste spécialisé en droit public et en droit européen. Vous enseignez à Sciences Po et à l'Université d'Évry. Le Conseil constitutionnel a rendu cette semaine une décision importante, manifestant sa volonté de contrôler les lois appliquées dans notre pays, même lorsqu'elles sont dans le champ du droit de l'Union européenne. J'ai l'impression que c'est la première fois.
Alors c'est la première fois qu'elle affirme qu'il y a, je cite, un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France qui permet au Conseil constitutionnel de contrôler une loi alors même qu'elle se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Mais c'est quelque chose qu'il avait envisagé dès 2004 et 2006 comme étant une possibilité. Et donc une quinzaine d'années plus tard, il consacre un nouveau principe concernant la possibilité ou l'impossibilité plus exactement de déléguer à la police aux acteurs privés des missions de police, et ce faisant, il affirme sa possibilité de contrôler la constitutionnalité des lois, même à l'égard du droit de l'Union européenne, et d'une certaine manière, il prend position dans le fameux débat sur qui prime, est-ce que c'est la Constitution ou est-ce que c'est le droit de l'Union européenne?
Oui, en effet, parce que ça se produit au moment même où la primauté du droit de l'Union européenne est discutée par la Pologne. Ça n'est pas tout à fait anodin, j'imagine.
Alors c'est pas anodin, mais il faut absolument pas comparer les deux, parce que les démarches du tribunal constitutionnel polonais et celles du conseil constitutionnel français sont fondamentalement différentes. Le tribunal constitutionnel polonais conteste la primauté du droit de l'Union européenne pour remettre en cause les droits et libertés, et notamment le principe d'indépendance de la justice, et pour contester l'idée même d'une Union européenne fondée sur l'état de droit et la protection des libertés. Or le conseil constitutionnel, lui, le fait pour protéger de façon particulière un droit fondamental spécifique à la France, en tout cas qui a une protection très, très particulière à la France, qui est cette interdiction que des forces privées puissent exercer des missions de police. Donc on est sur une démarche très différente, même s'il est vrai que le Conseil constitutionnel, ce faisant, se crée un outil qui pourrait, utilisé d'une manière différente, conduire à une contestation générale du droit de l'Union européenne. Mais ce n'est pas du tout sa démarche à ce stade.
Ursula von der Leyen a parlé à propos de la Pologne que son initiative remettait en cause les fondations de l'Union européenne. Ça n'est pas le cas de l'initiative du Conseil constitutionnel français?
Non, pas vraiment, parce qu'il y a déjà eu de nombreuses juridictions constitutionnelles en Europe, que ce soit juridictions allemandes ou estoniennes, qui ont eu l'occasion d'affirmer ce principe de primauté de leur constitution en droit interne, et ça ne pose pas de problème existentiel à l'Union européenne. On peut très bien avoir ce type d'articulation. Ce n'est pas en soi une remise en cause de l'idée même de l'Union européenne. Disons que ce sont des petites frictions, des ajustements, mais qui ne posent pas de difficultés sur le principe même de l'Union. Alors que la Pologne et son tribunal constitutionnel tamponnent littéralement l'idée européenne fondée sur l'état de droit. Et donc à cet égard, on est vraiment sur un autre niveau, une autre échelle et une autre ambition de remise en cause du droit de l'Union.
Mais jusqu'à présent, Nicolas Hervieux, le Conseil constitutionnel français s'estimait non compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois qui transposent le droit de l'Union européenne en droit français. Qu'est-ce qu'il fait changer d'avis? Pourquoi tout à coup il s'estime compétent?
Bah, en réalité, il ne change pas d'avis, puisque dès 2004 et 2006, il avait dit que c'était possible. Il avait affirmé l'idée que quand la loi qu'il contrôle relève du droit de l'Union européenne, il ne la contrôle pas, si ce n'est pour vérifier qu'elle respecte bien le droit de l'Union européenne. Mais il avait prévu cette réserve de constitutionnalité en prévision d'une possible contradiction entre une norme constitutionnelle française et le droit de l'Union européenne, une norme constitutionnelle française qui n'aurait pas d'équivalent dans le droit de l'Union. Et on pensait à l'époque, en 2004 et 2006, au principe de laïcité, qui n'a pas d'équivalent en droit de l'Union européenne. Donc si vous voulez, ce n'est pas une surprise qu'il utilise ce mécanisme, mais il avait déjà posé le postulat. Ce qui est très intéressant, et sans doute eu égard au contexte dans lequel on se trouve, c'est qu'il active pour la première fois ce mécanisme. Et la question qui se pose immédiatement, c'est jusqu'où ira-t-il et jusqu'où pourra-t-il aller pour consacrer peut-être un autre principe constitutionnel qui permettrait de contrecarrer le droit de l'Union européenne. Donc si vous voulez, il n'y a rien de surprenant, si ce n'est l'affirmation en cette période ô combien troublée pour le droit de l'Union européenne, d'une possibilité pour le Conseil constitutionnel de contrecarrer le droit de l'Union.
Mais c'est quoi l'identité constitutionnelle? Est-ce que ça prime sur les principes constitutionnels ou sur les articles de la Constitution?
Alors là, vous posez une question auxquelles les constitutionnalistes français vont consacrer des lignes et des lignes, et l'encre doctrinale va couler. C'est une vraie question fondamentale. En réalité, cette décision, elle pose beaucoup plus de questions qu'elle n'en résout, puisque d'abord, on ne sait pas ce que sont ces principes constitutionnels liés à l'identité. C'est le Conseil constitutionnel qui va le dégager au fil du temps, mais qu'est-ce qui en fera partie? Mystère. Et par ailleurs, est-ce que le Conseil constitutionnel crée une sorte de supra-constitution avec des principes constitutionnels qui seraient plus constitutionnels que les autres? C'est une vraie question. À ce stade, on ne peut pas apporter de réponse précise, si ce n'est que sans doute le Conseil constitutionnel aura l'occasion à l'avenir de borner un petit peu son ouvrage et peut-être son audace. Il nous apportera à l'avenir des précisions, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le champ des possibles pour le Conseil constitutionnel et tous les autres est très ouvert.
Le commissaire européen Thierry Breton a comparé la Pologne à un État des États-Unis comme le Texas ou le Montana qui ne voudrait pas respecter le premier ou le deuxième amendement de la Constitution américaine. Est-ce que la comparaison est valable ?
Non, je pense qu'elle est assez foncièrement infondée puisqu'on ne peut pas comparer l'Union européenne aux États-Unis qui sont un État fédéral. Et les États fédérés, eux, sont sous une constitution qui les oblige et ils n'ont pas le statut d'État souverain. Or, l'Union européenne est composée, quoi qu'il en soit, d'États souverains qui peuvent très bien décider de retrouver leur liberté. Nos amis britanniques ont pu le faire. Et c'est fondamentalement différent d'avoir une organisation composée d'États souverains comme c'est le cas dans l'Union européenne. Ce sont les États qui ont voulu créer l'Union européenne, qui en définissent les contours. Et même si ça conduit à ce que concrètement, pour des décisions particulières et des politiques, eh bien, ce soit des décisions qui soient prises par les institutions de l'Union européenne, l'Union européenne est une œuvre volontaire d'État souverain. Et c'est aussi cela qui définit la particularité de l'Union européenne par rapport aux États-Unis.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de souveraineté européenne? On fait une pause, Nicolas Hervieux, et vous répondrez à la question juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Nicolas Hervieux, spécialisé en droit public et en droit européen. Est-ce qu'il y a une souveraineté européenne, Nicolas Hervieux?
Alors, le mot souveraineté, c'est pareil, c'est un vaste sujet, une vaste notion, et tout dépend de la façon dont on le définit. La souveraineté, traditionnellement, c'est avoir la compétence de sa compétence, c'est-à-dire d'être libre d'exercer des pouvoirs et de s'auto-limiter à l'heure de les exercer. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comme un État par exemple, décider que nos pouvoirs souverains seront exercés cette fois-ci dans une organisation supranationale comme l'Union européenne. Et donc à ce titre, si on le définit comme ça, l'Union européenne n'est pas souveraine, puisqu'elle n'existe qu'au travers d'une décision qui, elle, est souveraine, celle de tous les États, et elle ne peut pas définir les limites de sa propre compétence. Ce sont les États qui, par les traités qui l'ont créé et qui la modifient, fixent son domaine de compétence. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'Union européenne est une création qui est une organisation internationale, encore aujourd'hui, et qui n'est pas, à ce stade, prêt à prendre son autonomie et son indépendance pour affirmer de façon souveraine des choses que les États n'auraient pas acceptées.
Donc, ce que fait le Conseil constitutionnel cette semaine, au fond, c'est limiter la compétence de l'Union européenne.
D'une certaine manière, mais c'est surtout appliquer la Constitution française. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Le Conseil constitutionnel ne fait que appliquer une Constitution qui est rédigée d'une façon à d'abord primer dans notre ordre juridique interne en France, mais aussi à tenir compte de nos engagements européens. Il y a un titre 15 dans notre Constitution qui consacre le fait que nous participons à l'Union européenne, que la République française participe à l'Union européenne. Et donc le Conseil constitutionnel, il articule ces deux contraintes, respecter la Constitution, mais aussi le droit de l'Union européenne. Ce qui veut dire aussi que si le Conseil constitutionnel va trop loin, le constituant, celui qui rédige la Constitution, c'est-à-dire le peuple, ou au travers du peuple, le Congrès, et les pouvoirs qui peuvent modifier la Constitution, eh bien, peuvent tout simplement le rappeler à l'ordre. Et ça, c'est un point important aussi, c'est que ce que fait le Conseil constitutionnel n'est pas sans limite, et lui-même, si jamais nous estimons qu'il va trop loin, eh bien, on peut le rappeler à ses devoirs, de la même manière qu'il avait pu considérer que les lois sur la parité étaient contraires au principe d'égalité, eh bien, le constituant a révisé la Constitution 3 fois pour que le principe de parité soit respecté. Donc ça, c'est un point essentiel à avoir à l'esprit.
Vous l'avez dit, l'Union européenne n'est pas un État fédéral comme les États-Unis, donc la Pologne, comme la France, restent des États souverains, à la différence du Texas, de la Californie ou du Montana. Mais alors, en quoi et au nom de quoi le droit de l'Union européenne s'impose-t-il au droit national d'un pays comme la France ou la Pologne ?
Ben au nom de la volonté des États eux-mêmes, c'est-à-dire que les États ont ratifié des traités qu'ils ont eux-mêmes rédigés qui impliquent cette primauté. Il faut bien comprendre que le principe de primauté du droit de l'Union européenne, c'est pas une espèce de foucade des institutions européennes lointaines qui voudraient imposer leur diktat au peuple. C'est absolument pas cela. Le principe de primauté du droit de l'Union européenne, c'est un élément essentiel pour que fonctionne l'Union européenne, marqué notamment par un marché intérieur, c'est-à-dire le fait qu'on puisse vendre des produits, des marchandises, qu'on puisse faire circuler des services ou des entreprises librement dans cet immense marché intérieur qui fait notre richesse. Et s'il n'y a pas de principe de primauté du droit de l'Union européenne, il n'y a pas d'application uniforme du droit de l'Union européenne et il y a une impossibilité de faire fonctionner ce marché intérieur. C'est pour ça que les États se contraignent. Ils ne le font pas de façon, j'ai presque envie de dire masochiste. Ils ne s'auto-limitent pas juste parce qu'ils ont envie d'être limités par un organe supérieur. Ils le font à dessein. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que dans les négociations lors du Brexit face au Royaume-Uni, les 27 États de l'Allemagne d'Angela Merkel, de la France d'Emmanuel Macron ou de la Hongrie de Viktor Orban ou la Pologne de Kaczynski, qui sont politiquement tous très différents, tous étaient comme un seul homme ou une seule femme sur la même ligne de protection du marché intérieur et de préservation de l'Union européenne, parce qu'ils y ont intérêt. Et ce n'est véritablement ça qui définit l'Union européenne, c'est cette convergence d'intérêts mutuels. Et si un jour un État décide que non, c'est trop pour lui, bah, il peut très bien sortir, mais il perdra les avantages économiques, diplomatiques, politiques de la participation à l'Union européenne.
Au fond, c'est parce que la France ou la Pologne ou n'importe quel autre État de l'Union européenne ont signé des traités qui ont une autorité supérieure à celle des lois, dans notre pays, c'est l'article 55 de la Constitution, qui fait que le droit de l'Union européenne s'impose au droit national d'un pays comme la France ou n'importe quel autre pays de l'Union européenne. C'est la primauté, au fond, du droit international.
C'est la primauté du droit international et c'est aussi nécessairement le fait que la Constitution, notre Constitution, prévoit cet engagement de l'Union européenne, cet engagement de la France au sein de l'Union européenne. Donc la primauté du droit de l'Union européenne sur les lois n'est que la conséquence de notre choix souverain inscrit dans notre Constitution et résultant de notre souhait de ratifier des traités européens. Et c'est vraiment cela qui va justifier le fait qu'on soit soumis au droit de l'Union européenne dans certains domaines de compétences. C'est cette acceptation volontaire, et qui peut donc être réversible, de cette primauté du droit de l'Union européenne.
Dernière question, Nicolas Hervieux. Quand Michel Barnier, ancien commissaire européen, candidat à l'élection présidentielle chez les Républicains, défend la nécessité, je le cite, d'une souveraineté juridique de la France, en l'occurrence en matière d'immigration, il reste dans les clous ou pas ?
Bon, on a le sentiment que c'est une posture de candidat qui oublie un peu assez vite les missions importantes qu'il a assumées par le passé en tant que commissaire européen ou personnalité chargée de gérer le Brexit et du coup de rappeler ses principes fondamentaux aux Britanniques lorsque l'on était en pleine négociation. C'est un peu navrant de voir que quelqu'un qui sait ce que signifie la notion de souveraineté juridique et qui sait ce qu'implique le principe de primauté de l'Union européenne, eh bien, abandonne cette connaissance pour se livrer à cette petite course à l'échalote populiste et électoraliste. Voilà, c'est assez navrant.
Vous voulez dire que la France n'a pas de souveraineté juridique ?
Bien sûr que si, bien sûr que si. Mais là, Michel Barnier parlait de la remise en cause du principe même de droit de l'Union européenne. Il y a une souveraineté juridique qui est tout simplement liée à notre qualité d'État souverain. Et l'Union européenne peut très bien voir ses compétences limitées si l'ensemble des États le décident. Mais ce que propose Michel Barnier en invoquant cette idée de souveraineté juridique, c'est de saper unilatéralement le fait que l'Union européenne puisse s'appliquer dans les domaines que les États ont acceptés. Et donc, bien sûr, on peut très bien modifier les traités. Mais ça a des conséquences, et c'est sans doute ce qu'oublie à dessein Michel Barnier de rappeler, ça a des conséquences sur la participation de la France à l'Union européenne et de tous les avantages que ça implique, notamment le marché intérieur ou le respect d'un ensemble de principes fondamentaux qui protègent les droits des citoyens européens.
Merci Nicolas Hervieux pour toutes ces précisions. On fait une pause, on se retrouve juste après, on va parler du WOC.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Le wokisme, la culture woke, le mouvement woke, ça revient de plus en plus souvent dans la bouche de nos politiques. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a même créé son laboratoire républicain, un think tank dont l'une des raisons d'être est de lutter contre ce qu'il appelle l'idéologie woke. Mais c'est quoi l'idéologie woke ? Pierre Valentin, bonjour. Vous avez 23 ans et vous êtes à la tête du pôle jeunesse du laboratoire républicain. Vous êtes encore étudiant, master de sciences politiques à l'Université Paris 2, diplômé de l'Université d'Exeter en philosophie et politique. Et vous êtes l'auteur de deux notes publiées par le think tank Fondapol sur l'idéologie woke, intitulée « Anatomie du wokisme et face au wokisme ». Il y a 3 ans, le quotidien Le Monde expliquait que le woke, c'était le nouveau cool. Si 3 ans plus tard, c'est devenu la cible de beaucoup de responsables politiques, j'ai l'impression que vous n'y êtes pas pour rien. Le pourfendeur numéro 1 du woke en France, c'est vous. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, je ne sais pas si je suis pourfendeur numéro 1, mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit une hausse de l'utilisation du terme. Alors, il y a eu plusieurs premières secousses. En janvier, notamment, une du Point, avec l'Observatoire du décolonialisme, qui a été la une la plus vendue, où eux lançaient l'alerte sur ce qu'ils estimaient être un militantisme au sein de la recherche. En mars, ensuite, l'Express a fait une sur le sujet. C'était, à mon sens, une des premières fois que le mot était vraiment mis en avant à ce point. Et après, en effet, en juillet, avec les publications de ma note pour la Fondapol, on a vu le terme rentrer progressivement dans le débat public. Alors, pour définir brièvement, c'est traduction littérale, c'est être éveillé. Et c'est, si vous voulez, un nouvel antiracisme qui trahit l'ancien à bien des égards.
Woke, ça vient de Martin Luther King, qui conseillait dans un discours aux jeunes Américains de rester éveillés, stay woke, hein, dans le sens de rester vigilant à l'égard du racisme et des discriminations. En 2008, c'est devenu une chanson d'Erykah Badu, I stay woke, et puis le slogan a été repris par le mouvement Black Lives Matter. À partir de quel moment on passe pour vous de la vigilance antiraciste, qui n'a rien de condamnable en soi, à une idéologie contraire à l'humanisme et à l'universalisme, pour reprendre les termes de Jean-Michel Blanquer?
Bien sûr, le wokisme a tout intérêt à se placer dans le sillon de Martin Luther King. Le problème, c'est que philosophiquement, ça ne tient pas, parce que on connaît tous le fameux discours de Martin Luther King, où il explique que je rêve d'un monde, d'un lendemain où on ne jugerait pas sur la couleur de la peau, mais au contraire sur le contenu du caractère des uns et des autres. On déplore en fait dans ce discours la pertinence des catégories raciales et, pour parler du wokisme au sens large, sexuel. Sauf que ensuite, on fait l'inverse, on se met à déplorer le fait qu'on ne perçoive pas la race et qu'on ne perçoive pas le sexe. Je cite notamment dans mes travaux deux auteurs qui ont écrit un manuel sur la théorie critique de la race, qui est très populaire en Amérique, où ils admettent frangeux en disant « contrairement au mouvement des droits civiques », donc en creux, contrairement à l'œuvre de Martin Luther King, qui visait l'amélioration progressive des conditions, la théorie critique de la race critique le fondement même de nos sociétés libérales, y compris le rationalisme des Lumières, l'égalité devant le droit, etc. etc. Donc il y a vraiment une distinction fondamentale à établir.
Rester éveillé dans l'idée de Martin Luther King, mais aussi de d'autres, c'est être conscient des injustices subies par les minorités, qu'elles soient ethniques, sexuelles ou religieuses. Elles existent, hein, ces discriminations, ces injustices. Le racisme, le sexisme, l'homophobie, ça existe.
Bien sûr, et c'est là où il faut distinguer philosophiquement. Ces gens-là ne souhaitent pas, en fait, amender un projet qu'ils trouvent globalement bon, mais qui n'aurait pas accompli ses promesses, que ce soit la promesse républicaine en France, ou que ce soit, si vous voulez, la promesse américaine des années 60, et je dirais du projet américain plus globalement. Ils pensent au contraire que nos pays, que ce soit l'Amérique ou la France, sont foncièrement mauvais dans leur essence. Donc il s'agirait, afin de libérer les minorités, d'abolir ce qui a été fait. Et pour citer Mathieu Bocoté, notamment dans son dernier ouvrage, il dit « Nos nations témoigneraient de leur grandeur en cherchant à s'abolir elles-mêmes ». C'est-à-dire que c'est un peu ça, cette idée. Et nous ne sommes pas en train de dire « Le système est pas mal, mais un peu imparfait, c'est le système doit être décolonisé parce qu'il est vicié, il est mauvais dans son essence même, tout doit être décolonisé et déconstruit ».
Mais quand les femmes, par exemple, disent qu'on vit encore dans un patriarcat, est-ce que c'est woke ?
Bah alors, disons qu'il y a des notions, en effet, comme on peut citer la culture du viol, et par exemple, qui cherchent à re-sexualiser, entre guillemets, ou re-racialiser, de faire revenir au goût du jour ces clivages-là. Et non plus de nous voir comme des personnes universelles, des personnes différentes, mais pareil, dans le fond, on va chercher à insister sur les différences afin de recréer une forme de guerre des sexes, de reprendre le dominé contre le dominant, de reprendre ce vieux schéma marxiste et de le remettre au goût du jour d'une manière à ce que toute fraternité, finalement, toute coexistence française, qui était là aussi le génie français de savoir faire coexister les sexes entre eux, c'est une volonté d'abolir ça et de recréer une guerre permanente, ce qui évidemment va à l'encontre du principe républicain de fraternité.
On fait une pause, Pierre Valentin, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Pierre Valentin, il est à la tête du pôle jeunesse du laboratoire républicain créé par Jean-Michel Blanquer et dont l'un des buts est de défendre l'humanisme et l'universalisme contre l'idéologie woke. Pierre Valentin, je l'ai dit, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant et vous nous dites au fond qu'il faut combattre les actes individuels, s'ils sont racistes ou sexistes, mais est-ce que vous réfutez, et avec vous tous ceux qui réfutent l'idéologie woke, vous réfutez qu'il y ait un système qui perpétue le racisme ou le sexisme, un patriarcat que les hommes entretiendraient pour maintenir les femmes sous leur joug, ou un racisme d'État dont les Blancs seraient les bénéficiaires, même inconscients, et les autres les victimes.
Bien sûr que je réfute ça. On est face à, si vous voulez, un paradoxe tocquevillien de l'égalité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de discrimination, les quelques discriminations résiduelles sont de plus en plus choquantes à nos yeux. On a notamment vu qu'en Amérique, au fur et à mesure qu'on ouvrait à la fois le marché du travail aux femmes et le monde universitaire aux minorités, c'est précisément à ce moment-là, donc au moment où le progrès était en train de s'accomplir, qu'il y avait de plus en plus d'accusations de sexisme dans le monde du travail et de racisme dans le monde universitaire. Donc, Tocqueville nous a bien montré que l'égalité était une drogue dure, une forme d'addiction. Et lorsqu'on a eu notre dose, on en veut toujours plus. On ne se pose pas ces questions-là dans des pays moins avancés, moins progressistes que la France et les pays occidentaux. D'ailleurs, le wokisme en général n'en a rien à faire des minorités non occidentales. La minorité dans les pays africains, dans d'autres pays, n'est pas un objet d'intérêt car il s'agit, si vous voulez, de les utiliser comme un coin à fendre pour affaiblir les normes occidentales et non pas pour les chérir en tant que telles.
Mais Pierre Valentin, vous réfutez qu'il y ait quelque chose de systémique là-dedans et pourtant, en dépit des efforts et des lois en faveur, par exemple, de l'égalité homme-femme, il y a encore des inégalités de salaire, il y a encore des différences de traitement, y compris en politique d'ailleurs, la plupart des femmes politiques vous le diront. Vous ne pensez pas que c'est la même chose si vous êtes juif, arabe ou homosexuel ?
Si, moi, encore une fois, si la France fait toutes ces choses extraordinairement mal, il s'agit de me démontrer quel est le pays qui fait ça 1000 fois mieux que nous. Il n'y a pas beaucoup de pays plus divers, plus égaux que la France. Et si, pour revenir à cette idée donc, de disparité statistique, on va voir dans un domaine, il n'y aurait pas assez de femmes, dans un domaine, il y aurait trop d'hommes, dans un domaine, il y aurait etc. Le problème, c'est que lorsqu'on constate ça, on part du principe que c'est le fruit d'une discrimination. Et tout autre facteur est jugé comme étant irrecevable. Et c'est ce qui, à mon sens, d'ailleurs, est assez constitutif de ce phénomène woke et qui se distingue de l'ancienne gauche, c'est ce sophisme-là. C'est-à-dire que toute disparité statistique est de fait le fruit d'une discrimination. Il y a par exemple en France une historienne qui parle du coût de la virilité, en disant que la virilité toxique a un coût terrible. Et qui va prendre comme preuve, donc elle émet une hypothèse, ensuite on va vérifier, elle utilise comme preuve de sa thèse, qui est de dire, la preuve, en prison, 96% des gens sont des hommes. Et le problème, c'est que si ça avait été 96% de femmes en prison, ça aurait été là aussi la preuve du sexisme systémique du système judiciaire-carcéral français. Donc c'est pile je gagne, face tu perds, c'est infalsifiable et c'est interminable comme raisonnement.
Justement, en France, est-ce que véritablement l'idéologie woke fait des ravages ?
Mais si on prend l'exemple de l'écriture inclusive, désormais dans les administrations comme la Sorbonne, ça s'est complètement banalisé. On a vu que les programmes de gauche, que ce soit Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, de mémoire La France Insoumise, et également rédigent désormais leurs programmes en écriture inclusive. Ça, c'était impensable il y a encore quelques années. Donc peut-être qu'en 2027, pour donner encore l'exemple de l'écriture inclusive, nous n'aurons pas plus de programmes de gauche qui ne seront pas rédigés en écriture inclusive. Donc il y a quand même, en prenant cet exemple-là, on voit une progression exponentielle et on voit aussi dans ces mêmes sondages que c'est les élites de demain qui sont woke. C'est ceux qui sont diplômés ou en passe de le devenir, qui sont jeunes, donc c'est eux qui auront des postes plus tard dans les médias, dans les institutions, dans le domaine artistique, et c'est pour ça qu'on a raison d'en parler.
Dans la fracture, l'étude de Frédéric Dabi sur cette jeune génération, il était dit que c'est une génération qui est plus sensible aux offenses qui peuvent être faites, alors que ce soit pour des questions de religion, de sexe, de genre, d'orientation sexuelle. Est-ce qu'on peut leur reprocher ?
Non, mais évidemment que c'est normal d'être sensible à ça. Le problème, c'est qu'on a une génération, là pour le coup il y a des psychologues américains qui ont fait des travaux fantastiques sur la question, notamment Jonathan Haidt et Greg Lukianoff en 2018, qui ont qui ont cherché à comprendre comment cette génération avait été élevée, en fait. Parce qu'ils remarquaient qu'il y avait un changement brutal à partir de 2013 sur les campus américains. Donc ils se sont dit, on va étudier de 95 à aujourd'hui, parce que 95, c'est ceux qui arrivent à 18 ans sur les campus, si vous voulez. Donc en 2013. Et ils remarquent que c'est une génération qui a passé très peu de temps sans supervision parentale. Ils ont toujours eu soit un parent, soit aller à l'école toujours un professeur, un surveillant, une nounou, un coach de sport, toujours quelqu'un qui les surveille, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser du réflexe enfantin en grandissant, de se tourner vers une source d'autorité pour régler les différends à leur place. Donc du coup, constamment, dès qu'ils ont un problème, ils se tournent vers une source d'autorité. Et ces helicopter parents, comme il dit, donc des parents comme un hélicoptère qui survolent leurs enfants, donnent naissance, si je puis dire, à des hélicoptères bureaucratie dans le monde universitaire, où là, sur des notions de protection, de surprotection, j'ai envie de dire, la bureaucratie va intervenir pour dire non, mais tel conférencier, il risque de vous faire mal avec ses vilains mots, il ne faudrait pas qu'il vienne parler. Et d'ailleurs, les étudiants demandent l'annulation des conférenciers, non pas sur des termes de préférence, en disant « je n'ai pas aimé ce conférencier », sur des termes de vertu, « ce conférencier est mal », ils vont dire « ce conférencier va me mettre en danger ». Donc on mobilise le champ lexical, si vous voulez, de la sécurité, de la surprotection, afin de donner un prétexte neutre à la bureaucratie universitaire pour qu'elle intervienne.
Je rappelle que vous avez 23 ans, hein, donc vous faites partie de cette génération.
Bien sûr, mais je la côtoie.
À propos de cancel culture, justement, ça fonctionne très bien par rapport aux hommes accusés de viol, ou de harcèlement, ou de pédophilie. Ça, ce n'est pas propre au mouvement woke.
Non, bien sûr. Encore une fois, il y a toujours eu des phénomènes où des gens, si vous voulez, disparaissent de l'espace public. Là, ce qu'on note quand même, c'est qu'il y a une hystérisation du débat et un côté exponentiel. C'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de cas, à mon sens. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une jeunesse qui, psychologiquement, a besoin de régler ses problèmes par l'intervention d'une tierce personne. Et donc la cancel culture vient rentrer pile poil là-dedans, parce que c'est des jeunes qui se tournent vers, par exemple, le tweet classique pour annuler quelqu'un, c'est on va taguer, comme on dit, une entreprise en disant « telle entreprise, êtes-vous d'accord avec les propos tenus par tel employé ?» et en creux, virez-le, annulez-le. Donc là aussi, on voit qu'il y a une addiction au fait de se tourner vers une source d'autorité pour régler ses différends à sa place. Et à mon sens, les générations d'avant n'ont pas grandi élevées comme ça. Non, on grandit dans une logique où si on avait un différend, on le réglait entre deux yeux, on allait prendre une bière et on allait régler ça entre quatre yeux, comme on dit. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a une génération qui a grandi différemment et qui, avec les réseaux sociaux, est habituée à essayer de faire régler ses problèmes par une source d'autorité différente. Et c'est là ce qui est vraiment nouveau, à mon sens.
Et alors, vous auriez en face de vous, là, un jeune de 23 ans, votre âge, qui est woke. Vous lui diriez quoi entre quatre yeux ?
Je dirais que c'est un des fils rouges d'ailleurs de mes travaux sur la question, c'est de dire que ce phénomène déjà est purement négatif et il ne peut que détruire, que déconstruire. Ce n'est pas pour rien que c'est ce terme qui est le plus populaire, donc il ne trouvera pas son bonheur là-dedans. Et l'autre fil rouge, c'est de dire que les gens qui tombent dedans ne peuvent que se radicaliser. Tout est fait pour qu'ils se radicalisent. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un côté infalsifiable avec les disparités statistiques. C'est-à-dire que le woke va se tourner quelque part, il va dire, bon bah là, il y a 96% de femmes, imaginons, en prison, c'est la preuve du sexisme systémique. S'il y a 96% d'hommes, il va dire, tiens, mais c'est la preuve du virilisme toxique. Donc partout où il se tournera, il verra des confirmations de ses théories, il n'aura aucune chance de s'en sortir. Moi, j'ai eu quelqu'un récemment qui m'a contacté, qui était de l'école dans laquelle j'étais avant, qui a eu des problèmes psychologiques, qui a eu beaucoup de mal à vivre tout ça, et qui m'a dit, je suis en effet sombré dans le wokisme à ce moment-là, et grâce à toi, grâce à tes vidéos, tes entretiens, ça m'a vraiment aidé à m'en sortir, à me rendre compte en fait que leur discours était très, disons, attirant pour quelqu'un comme moi qui avait souffert des choses difficiles dans ma jeunesse, etc. Et à chercher à m'enfermer en fait dans mon statut de victime sans me donner les moyens, les clés de compréhension pour arriver à m'émanciper de ce statut qui finalement est une régression et une manière d'enfermer les personnes.
Merci Pierre Valentin.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans un instant avec Tina Tobago, une danseuse du Crazy. Le Crazy vient de rouvrir.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Le Crazy Horse, l'un des plus célèbres cabarets parisiens, qui fête cette année son 70e anniversaire, a rouvert ses portes jeudi soir après 18 mois de fermeture due au Covid. Tina Tobago, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie des danseuses de Totally Crazy, dont les tableaux sont signés par le chorégraphe Philippe de Coufflet et le chausseur Christian Louboutin. Heureuse de remonter sur scène ?
C'est un grand plaisir. J'attendais ça avec impatience, je pense comme toutes mes collègues, et c'est même sûr. C'était vraiment un très très grand bonheur et on attendait ça, mais voilà, on attendait que ça.
Vous repartez six soirs par semaine ?
Oui, c'est reparti, on recommence.
Deux alors, séances par soir ?
C'est ça, deux totale. Shows par soir ou trois le samedi. Donc là, c'est reparti, il y a encore des adaptations à faire, c'est normal, parce que bah, voilà, la reprise se fait de manière progressive, mais ça va pas durer comme ça, je pense qu'on va être à fond dans.
Vous avez répété combien de temps pour vous remettre en jambe ? Parce que 18 mois de fermeture, c'est long, hein, on perd la forme.
On est en répétition depuis le mois d'août, depuis le 9 août, minutes, on est en répétition, on ne s'arrête pas à répéter chaque tableau, chaque numéro, les solos, les numéros de groupe, voilà, tout ensemble.
Et alors, il a changé le Crazy Horse pendant ces 18 mois, il s'est métamorphosé. Qu'est-ce qui a changé ? Façade, alcôve.
La façade a changé, les textures. Il y a un nouveau jour pour le Crazy, très classe, très moderne. On adore.
Alors Tina Tobago, il faut dire qu'au plus fort de la pandémie, vous n'êtes pas restée inactive. Avant d'être engagée au Crazy Horse, vous étiez infirmière de bloc opératoire. Et en mars 2020, quand le confinement a été décrété, vous avez rejoint le service de réanimation de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Vous y êtes restée trois mois très durs, j'imagine.
Trois mois très difficiles, trois mois de nouveautés, parce que c'est pas des choses qu'on vit quand même tous les jours dans ce métier-là. C'était la première fois que j'y vivais quelque chose d'aussi intense dans mes 11 ans de diplôme. Mais bon, voilà, j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir aider mes collègues à temps plein et c'était vraiment un gros plaisir pour moi, même si j'ai passé des moments très très difficiles.
Qu'est-ce qui est le plus dur physiquement, être danseuse au Crazy ou être infirmière ?
Ah, c'est deux choses complètement différentes. En tant qu'infirmière, en effet, on est debout toute la journée, on marche, on piétine. Il y a aussi le moral qui en prend un très grand coup, il faut tenir, on n'a pas le choix. Le Crazy, c'est quelque chose de différent, ça me permet aussi de m'évader, justement de pouvoir évacuer toutes ces choses qu'on garde en nous en tant qu'infirmière parfois et qu'on peut ou on n'a pas l'occasion de pouvoir sortir. En effet, le Crazy, c'est dur parce que c'est de la danse, parce que c'est quand même des sportifs de haut niveau. Nous sommes sportifs.
Vous-même, vous venez de la gymnastique rythmique.
Exactement. J'ai fait de la gymnastique pendant 21 ans. Donc, le corps, en effet, en prend un coup, mais ça reste avant tout un plaisir, en fait. Et c'est ça qui fait que les deux choses sont complètement différentes.
Mais pendant ces trois mois très particuliers, hein, vous l'avez dit, on est pendant le confinement, les services d'urgence sont saturés. Vos collègues savaient que vous étiez danseuse du Crazy ?
Certains. La cadre le savait. Danseuse, oui, peut-être pas au Crazy, parce que je ne dis pas ouvertement tout de suite à tout le monde où je danse, mais oui, les concernés le savaient. Et puis les personnes avec qui je me suis rapprochée l'ont su également, mais c'est pas la priorité. Quand je vais travailler au bloc ou que je vais travailler aux urgences en réa, on se fiche de savoir ce que je fais à l'extérieur.
Les malades pourraient s'inquiéter si on leur disait...
Ou pas, non, personne ne s'inquiète, au contraire, ça peut être une passion comme une autre. Voilà, j'aurais pu dessiner, j'aurais pu être actrice, chanteuse, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que, voilà, ça reste des passions. Après, le Crazy, c'est un peu mythique, c'est un peu des paillettes dans les yeux, c'est pour ça que c'est aussi impressionnant, mais au final, la passion reste authentique, telle qu'elle est dans les autres arts.
Vous n'avez jamais cessé d'être infirmière, hein, tout en dansant au Crazy.
Non, jamais, jamais.
Aujourd'hui, vous êtes vacataire dans une clinique du 13e arrondissement. Est-ce que toutes vos camarades ont un métier qu'elles exercent le jour ou vous êtes une exception ?
Alors, non, mais on a toutes une activité en dehors, par contre. Pas forcément un métier, mais des grosses passions. Mais oui, il y en a plusieurs, notamment Fastiwis, par exemple, qui fait de la radio. Nous sommes toutes des femmes, des personnalités différentes. Et puis, ce qu'on a envie de faire, bah, si on a l'occasion de pouvoir le faire de manière professionnelle, et ben, tant mieux. Et avec joie.
Tina Tobago, 6 soirs par semaine, 2 séances par soir, parfois 3, et infirmière le lendemain.
C'est ça, c'est un dur planning, très dur à gérer parfois. On se sent peut-être un peu dépassé de temps à autre, mais on essaye de faire en sorte que tout soit... que tout rentre dans les cases et surtout que je sois à l'aise dans les deux professions, parce que c'est ce qui reste le plus important. En tant qu'infirmière, moralement, physiquement, il faut que je sois efficace, opérationnelle, et c'est la même chose au Crazy Horse.
Alain Bernardin a ouvert le Crazy Horse le 19 mai 1951 pour son 70e anniversaire, donc en mai 2021, l'établissement était fermé. Vous avez craint un moment que ça ne rouvre jamais ?
Non, jamais. Alors, je ne sais pas si c'était à tort, hein, mais j'ai toujours cru au Crazy, à la réouverture. Au fond de moi, je me disais, non, le Crazy ne fermera jamais. Et j'y crois toujours et je continuerai à le penser.
Pourquoi vous vous êtes appelée Tina Tobago ? C'est vous qui l'avez choisi ?
Alors non, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ah. C'est la direction artistique, hein, qui l'a choisi. Les danseuses n'ont pas leur mot à dire, normalement, sur les noms de scène. Il est choisi en fonction de notre personnalité, en fonction de nos origines, en fonction de ce qu'on peut dégager. Donc voilà, c'est...
Et alors, pourquoi Tina ? et pourquoi Tobago ?
Ah Tina, je suis arrivée avec une touffe de cheveux énorme sur la tête.
Vous l'avez encore, hein ?
Elle était encore plus volumineuse, donc ça faisait penser à Tina Turner. Donc voilà, ils ont choisi Tina pour le prénom. Et puis pour mon nom, bah, je viens des Antilles, donc ils ont choisi l'île, l'archipel de Tobago, qui est magnifique île parce que je viens de la Guadeloupe. Et donc voilà, c'était le petit clin d'œil à mes origines. Donc voilà, Tina Tobago.
Le spectacle du Crazy, c'est une suite de tableaux. Est-ce qu'on est toujours dans le bon tableau ? Je me suis toujours dit, en voyant ce spectacle, en me disant, tiens, il y en a peut-être une qui voudrait être dans le tableau d'à côté, dans le suivant, dans... Comment ça se passe ?
Alors, ce qui est magnifique au Crazy, c'est qu'on ne s'ennuie pas parce qu'on connaît tous les numéros de groupe et toutes les places. C'est-à-dire que d'un show à l'autre, on pourra être sur le tableau numéro 1 à la place 4. Et sur le show d'après, on pourrait être sur le tableau numéro 2 à la place 3. Voilà, c'est quelque chose qui est génial pour nous parce que ça permet d'avoir voilà des visions différentes du show, de pouvoir toujours en profiter sans se lasser. Et ça, je trouve que c'est vraiment très agréable à vivre. Et c'est pour ça que oui, on pourrait voilà premier show, on vit ce show-là à fond pour que celui d'après soit différent, qu'on vive d'autres émotions avec un public différent. Et c'est extraordinaire.
Du temps d'Alain Bernardin, il était célèbre pour... il ne voulait absolument pas que les admirateurs puissent attendre les danseuses du Crazy à la sortie. Est-ce que c'est toujours pareil aujourd'hui ?
C'est toujours le cas, c'est toujours le cas. Nous n'avons aucun contact avec le public.
Toujours.
Exactement. Aucun contact avec le public. Le seul contact qu'on ait, ce sont avec les managers. Voilà, on est vraiment... Voilà, on est quand même assez isolé. Quand on sort du Crazy, on rentre directement dans nos taxis pour rentrer à la maison. Vraiment, on a cette barrière toujours qui est pour moi très importante et qui permet quand même de nous protéger.
Ces dernières années, on a quand même vu beaucoup le Crazy à la télévision, au moment de Noël, ailleurs. Est-ce que ça a créé une sorte de célébrité qui n'était pas prévue au départ ? Les filles du Crazy, sous leur perruque, souvent disparaissent.
Ce côté célébrité, star, c'est vrai que bon, moi je passe vraiment un peu à côté, à côté de tout ça. Mais après, oui, c'est une bonne chose qu'on puisse nous voir régulièrement sur les chaînes parce que le Crazy, on a... Voilà, il y a tellement de choses à découvrir dans ce numéro, quelque chose qui est juste à voir vraiment en vrai. Et c'est vrai que les images peuvent donner envie à tous les téléspectateurs de venir voir ce show qui est vraiment exceptionnel, qui est incroyable. Je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont vu ce show pour la première fois étaient bouche bée et ne s'attendaient pas à ce qu'ils avaient en face d'eux. Et je souhaite vraiment voilà, voir ce sourire et ces étoiles
surtout
dans tous les yeux.
Surtout dans un établissement qui est si petit, en fait. On l'imagine gigantesque.
Exactement.
Alors que c'est un
très,
petit
très
cabaret.
Très intimiste. On vit vraiment les choses à fond, avec une proximité avec les artistes. Et c'est ce qui est vraiment une des marques de fabrique du Crazy, c'est ce côté voilà, intimiste, proche des artistes, c'est toutes ces émotions, il y en a dans tous les sens, enfin, on en prend vraiment plein les yeux quand on vient pendant une heure et demie voir ce show.
Vos collègues de la clinique du 13e arrondissement, vous êtes infirmière en ce moment, ils sont venus voir le show ?
Ah, certains, oui, sont venus voir le show. D'autres, pas encore, mais ils attendent vraiment que je vienne avec des places pour leur dire « Invite-moi au Crazy », parce qu'ils ont vraiment hâte de voir ce que je donne sur scène. Parce que bon, en blouse avec des bistouris et des pinces, c'est pas tout à fait la même ambiance. Donc, on a besoin de sourire, on a besoin de bon temps. Donc, je les invite vraiment à venir voir le show.
Merci Tina Tobago et bonne rentrée au Crazy.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, s'achève. Rendez-vous demain matin à 9h, juste après le flash de Lémonique Meunier. Ce sera les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve vient de pénétrer dans ce studio. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric. T'as pas 100 balles. Le fameux 100 balles du gouvernement, le chèque inflation, le retour de François Hollande en librairie avec son livre Affronté, une sorte de désengage de tout le monde. Et aussi, là, est-ce une bourde ou pas d'ailleurs ? D'Éric Zemmour qui pointe son fusil sur les journalistes. On en parle avec les grandes voix.
Bonne émission.